Ville de Ris-Orangis. Département de l'Essonne, ville de Ris-Orangis. Arrêté numéro 2013-147 du 29 mars 2013. Portant mise en demeure d'évacuation des parcelles cadastrées AC43, 45 et AC9. 6 rue Albert Rémy, route nationale 7. Le maire de Ris-Orangis, conseiller général de l'Essonne, considérant qu'un campement comprenant des abris de fortune au sein desquels habitent des familles est installé sur deux parcelles, propriété du conseil général de l'Essonne, cadastrées AC43 et AC45, et sur une parcelle AC9 appartenant à Réseau Ferré de France. Considérant que ce campement initialement constitué de deux parties...
C'est aux questions soulevées par la destruction du bidonville de Ris-Orangis et par l'expulsion de ses occupants, ainsi qu'aux perspectives ouvertes par l'action menée sur place par l'association Le Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines, que sera consacré ce deuxième programme radiophonique. Dans le cadre de sa résidence à l'espace Kiasma et des rencontres qu'il y organise, Jean-Paul Curnier a proposé au public deux soirées de réflexion sur ces questions qui ont eu lieu les 25 février et 19 mars dernier. Y était présent Sébastien Thierry, fondateur et animateur du Pérou, des membres militants du Pérou, ainsi que des auteurs du livre collectif réalisé dans le cadre de cette action et intitulé « Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir » et sous-titré « Sur l'art municipal de détruire un bidonville ».
CIM, compagnie industrielle et maritime, et des silos de soufflet agriculture. Considérant que le plan local d'urbanisme interdit pour les terrains soumis au PIG de protection contre le risque technologique
arrêté
industriel,
arrêté municipal numéro 2013-147 du 29 mars 2013 n'était pas fait pour être lu. Le 1er avril 2013, sitôt placardé sur le seuil du bidonville, dit de la Nationale 7, il sidère et accable. Noirci d'insaisissables acronymes, les 8 pages qui le composent sont saturés de considérants comme accumulés pour faire corps et écran. L'arrêté saisit sans se laisser saisir. Il maintient à distance. Ces lignes illisibles, aux allures de semonce, prennent en ce petit matin printanier le sens unique d'un verbe à l'impératif que les enfants du bidonville connaissent depuis leur plus jeune âge. Dégage. Ce secteur doit être soumis à en quelques heures, de la ces lignes précipitent effectivement les occupants du campement.
Considérant que l'installation des cabanons et des bâtiments en bois dénommés ambassades a été réalisée en l'absence
en
de
novembre 2012, des parcelles cadastrées AC43, AC45, AC9 forment une enclave boueuse où vivent 12 familles d'origine roumaine. Avant que textes, machines et hommes en uniforme les y poussent, tout concourt déjà à leur prochain éloignement. Ces familles tiennent les comptes des mesures d'expulsion qui, depuis des années, s'abattent sur elles, et leur nombre comme leur régularité ne leur laissent envisager aucun répit. 17 expulsions en 18 ans de présence en Essonne. Tel est le record. Il est détenu par un couple et ses 3 filles, chacune scolarisée depuis qu'elles sont en âge de l'être. La destruction de leur baraque est comme inscrite dans les plans de sa construction.
Bon, si... Bonsoir. Si j'en juge au silence qui se fait, c'est que c'est le moment de parler. En gros, il y a 3 choses qui nous paraissaient intéressantes ce soir. La première, c'est de présenter ce livre qui est ici, qui est une forme d'action, qui n'est pas que le livre qui raconte quelque chose, mais qui est une forme d'action du Pérou. Et donc ça, Sébastien Thierry en parlera tout à l'heure plus précisément. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont collaboré à ce livre. Là, moi, je pense que c'est une des choses qu'on pouvait dire les uns les autres, c'est comment on pense l'usage de l'écriture dans un tel livre, puisqu'il ne s'agit pas, ce n'est pas un gala de charité, il s'agit donc de penser une forme d'écriture avec donc, au fin fond de la chose, une forme d'efficacité dans le cadre d'une situation donnée, qui est celle donc des migrants, de l'expulsion des bidonvilles d'une sorte de forme commune de politique d'éradication des bidonvilles qui se met en place depuis quelques années. Donc ça, ce serait la deuxième chose. La troisième, c'est donc
axe par jour. Considérant que le campement se situe par ailleurs à 300 mètres du dernier feu de circulation côté direction Paris ou Évry, sur un tronçon en ligne droite dépourvu de tout éclairage, constituant une zone...
La troisième, et nous allons commencer par là, c'est ce qui relève de la nature même de cet arrêté d'expulsion, de son style, de sa forme d'argumentation et des motivations profondes qui peuvent expliquer cette sorte de litanie juridique.
Étienne Balibar.
À mesure que je le lisais, ce qui m'a, ce qui
qui m'a frappé, c'est la dimension de délire de ce texte. Et c'est d'abord ça que j'ai voulu comprendre. Et puis ensuite, à l'intérieur, évidemment, à mesure que je le lisais et que je le relisais, il y a d'autres éléments dont je dirais un petit mot qui m'ont frappé, des mots en particulier qui m'ont arrêté, qui font symptôme dans ce texte, je crois, symptôme politique, symptôme aussi idéologique, évidemment. Bon. Et puis des dimensions politiques qui sont très révélatrices de l'état du pays dans lequel nous vivons en ce moment. Mais pour commencer, il y avait cette dimension délirante. Il est évident qu'il y en a trop. Il est évident que ce n'est pas nécessaire, une pareille quantité de justification. Et donc, ça pose la question de savoir pourquoi une administration, pourquoi une machine comme ça, une machine administrative de ce genre, ou administrative en politique, a besoin de s'intoxiquer elle-même avec des mots. Hein, bon. Et alors, évidemment, je ne ressors pas mes théories, mais je pense que c'est une des dimensions de l'extrême violence de l'État dans certaines circonstances, surtout visant justement des populations persécutées, que de fabriquer à son propre usage ce délire verbal. Et évidemment, c'est pas fonctionnel. Enfin, c'est l'excès. Hein, c'est l'excès. Ça montre, au fond, indirectement, quelle dimension, non seulement de force, de violence, de brutalité, etc., mais d'excès, finalement, il y a dans toutes ces affaires. Donc on se dit aussi, les Roms sont cette population sur qui, de façon voyante, de façon visible pour les riverains, etc., va se concentrer une action de l'État, qui est évidemment une action de répression et de persécution, mais qui se présente quasiment comme une mission humanitaire.
En novembre 2012, la machine à voir qui préside à la partition du monde entre eux et nous fonctionne parfaitement. Du bon côté du monde, on sait de ces étrangers que leur histoire s'écrit ailleurs et que, en contribuant à ce qu'ils s'éloignent, l'on concourt à ce qu'ils réintègrent en fait leur nature véritable. Du bon côté du monde, on sait de ces pauvres que leur destin est tout autre et que, en organisant parfois leur prise en charge dans des centres éloignés de nos centres urbains, on œuvre charitablement dans et pour le bon sens. Ainsi se multiplient au revers de nos villes, en négatif de leur développement, des sous-bois où l'on relaie les loups que sont ces hommes à l'identité problématique. Outre-villes plus ou moins surveillées, centres agrés, où des travailleurs sociaux s'échinent à redresser pour intégrer, lisières, squats et autres talus d'autoroute, où ceux qui posent problème sont suivis non par la police sociale, mais par la police urbaine, qui veille à contenir la menace qu'ils représentent.
Charlotte Coway.
Moi, personnellement, j'ai pas écrit, j'ai fait des dessins, parce que ce texte oublie complètement la finesse du vécu, et juste des gens qui y habitent, qui ont une petite cuisinière, qui ont ces lits, qui déploient, etc., et que juste des gens habitent, et il n'y a rien de crade, il n'y a rien de triste dans la manière dont ils habitent. Après, on peut avoir des grilles de valeurs qui, effectivement, les classent ou les déclassent, mais dans l'absolu, quand on est avec eux, tout comme le texte de Meryl qui titre la vie dangereuse de l'enfant dans le bidonville. Et les enfants, quand on les voit jouer, il n'y a rien de dangereux. Ils jouent tous dans une cour centrale avec 40 mamans qui les regardent jouer. C'est même un lieu qu'on aimerait avoir pour nos enfants, parce qu'au moins, on les voit, ils ne sont pas loin, ils sont avec d'autres enfants, etc. Et c'est tous ces idéaux presque d'urbain, d'une ville qui se fabrique toute seule, assez rapidement, sans énormément de budget, librement, avec même des artistes qui viennent y installer Internet en réseau autonome, avec tout ce qui peut s'y passer, qui est absolument absent de ce texte, et qui était alors absolument présent pourtant dans tout ce qu'on y a vu et tout ce qu'on y a vécu.
Jean-Christophe Bailly.
Où quelque chose puisse se reconstituer avec des musiques, des chants, des présences, des poèmes, des photos, des vidéos, tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est ça qui est profondément détesté par le pouvoir. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui les gêne le moins, c'est qu'ils dorment sur des matelas, place de la République, etc. C'est comme ça qu'ils veulent les voir. Et les voir comme ça, à chaque fois, en plus, moi, il se trouve que j'habite tout près de la place de la République, à chaque fois, c'est blessant. C'est blessant d'abord pour eux, c'est-à-dire ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font là? Comment on peut être ainsi dans la rue à cet abandon, dans cet abandon-là, en même temps ce que ça installe, etc. Et on se rend compte que cette situation, c'est celle qui est vraiment tolérée, voire presque, on pourrait dire, encouragée au fond par le pouvoir en place. Et alors que lorsqu'il y a, si fragile que ce soit et si improvisé que ce soit, et fragile et improvisé ne sont pas des mots péjoratifs dans ce cas-là, à ce moment-là, ils réagissent par la violence et par l'expulsion. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement d'existence.
Jean-Paul Curnier.
Là, je crois que le véritable scandale, c'est cette jubilation absolument qui ressemble effectivement à un tout petit monde neuf. Voilà, un petit monde neuf. Un petit monde neuf, ça fait scandale dans un monde archi-réglé et mourant.
Cyril Hanap.
Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, le bidonville, il porte en lui la racine de la civilisation. Toutes les villes ont été des bidonvilles au début.
Ça, c'est une évidence, quoi. Voilà. Bon, et c'est pourquoi je trouvais que les formes de riposte aussi, qui passaient par la jubilation, par la joie, le fait de construire des endroits où on danse et où on fait de la musique, tout en imprimant dans cet endroit, alors oui, bidonville, cabane, bidonville, c'était à La Réunion, je me rappelle, la première fois, parce qu'il s'était fait avec des tôles de bidon, et parce que c'était efficace, les tôles de bidon, pour faire des villages, mais très efficace. C'était simplement des villages qui faisaient honte aux sociétés marchandes qui, elles, ont déjà totalement surrégulé urbanistiquement, supermarchétisément, etc., etc., ce que doit être une certaine vie urbaine. Alors ça fait honte, évidemment, le village jubilatoire et en tôle. Bon, mais c'est un village, c'est une petite bout de civilisation joyeuse, quoi. Et dès qu'il est joyeux, alors là, je crois que c'est... Alors, en plus que des gens qui ne sont pas des Roms, je veux dire, qui sont des architectes, des étudiants en architecture, etc., s'ajoutent à ce désastre pour aller en plus augmenter la jubilation, là, évidemment, le scandale est triple. Je pense que le prochain arrêté d'expulsion, ce sera les gens du Pérou, ça paraît assez clair, quand même, quoi.
Sébastien Thierry.
L'action en elle-même, on y reviendra peut-être, mais l'action a été, du coup, mise en œuvre par un certain nombre de personnes qui sont ici présentes, donc des membres du Pérou et d'autres, et des riverains, comme on dit, nouvelle catégorie de sciences politiques aussi, et dans la joie et la bonne humeur. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi une coquetterie, mais je crois que c'est une stratégie qui n'est pas commandée, qui d'ailleurs nous a beaucoup dépassés dans un certain sens, mais une stratégie dans le sens où, effectivement, la joie de construire et de faire a été, je crois, et reste reste une arme désarmante, justement, face au triste cire face auquel on se trouve dans ces situations-là. Donc, effectivement, danser, faire l'amour, construire, chanter, etc., sur un terrain sur lequel il n'est censé n'y avoir aucune trace de vie. Et c'est d'ailleurs, si ce terrain devient un lieu de vie, ça devient une impossibilité logique même pour y faire ce que les pelleteuses y font. Donc c'était aussi une manière d'opposer simplement par l'acte constructif et la joie dont il regorge et duquel il se nourrit. Y opposer cette joie.
Charlotte Coway.
Alors je voudrais juste ajouter quelque chose à ça. C'est un peu pour rebondir sur ce que disait Cyril. Et je voudrais parler au nom de Chloé Baudard, qui n'est pas là, qui a fait un texte sur le fait que ces gens-là ont investi un lieu qu'on appelle un non-lieu ou des lieux non qualifiés ou comme tous ces espaces qui font partie de la ville ou ces villes périurbaines qu'on appelle des espaces non qualifiés qui sont sous ces bretelles d'autoroute qui seront jamais qualifiés. Et parce qu'ils y ont fait la fête, parce qu'ils y ont vécu, parce qu'ils ont inventé des rues, une place, etc., ils ont plus qualifié que jamais tout ce que n'importe quel urbaniste pourrait faire en un an. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce lieu a pris une valeur. Et ça, je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à ressentir et à faire exister cette valeur telle qu'elle. Je la trouve pas si compliquée à observer.
Jean-Christophe Bailly.
Ce qui est attaqué, et c'est la naissance possible de quoi que ce soit. la naissance possible de quoi que ce soit. Et cette naissance, elle prend justement une forme spatiale. Et cette forme spatiale, ce n'est pas pour détourner hors de la question précise des Roms, de la répression, de Valls, etc. Mais je crois qu'elle a une signification qui dépasse infiniment le village Rome. Et qu'elle a une signification pour l'ensemble de la société et pour l'ensemble de ce qui se construit, l'ensemble de ce qu'on appelle les cités, etc. Et que dès lors qu'on essaye de faire quelque chose qui serait ressemblant à ça, mais qui ne serait pas dans la situation des Roms, à chaque fois on retombe sur la même stupidité des édiles, disons. Hein. Et par exemple, un tout petit exemple, c'est par exemple les fameux jardins qu'on appelait autrefois ouvriers, que maintenant on tend à appeler les jardins familiaux. On assiste à ça, que lorsqu'arrivent les espaces résidentialisés, les habitants des espaces résidentialisés se plaignent de la proximité à ces trucs pas nets que sont les jardins ouvriers bricolés. Or, l'existence du jardin ouvrier, elle est basée sur le bricolage, elle est basée sur l'invention d'un espace et sur des formes de partage qu'on produit beaucoup d'inédits et de choses très intéressantes. Et si vous remarquez, on voit de plus en plus se multiplier des jardins que les édiles n'appellent plus ouvriers, évidemment, mais familiaux, qui d'ailleurs sont bénis par certains écologistes parce qu'ils sont aux normes, etc. Et la base de ces espaces, c'est que, par exemple, on n'a pas le droit de boire un verre dans son cabanon. C'est la base, pratiquement. S'il y a toute forme de société, le cabanon, c'est pour les outils, et c'est tout. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des exemples beaucoup plus tragiques, mais je le prends pour voir. Et on pourrait citer aussi, par exemple, je demande un renseignement, d'ailleurs, parce que je ne sais plus où ça en est, mais sous le Sarkozy, il y avait une loi concernant les yourtes, etc., qui devait être interdite. Ça reste toujours. Et donc, il y a quand même une logique générale de tout ça, dont on pourrait dire que l'élément le plus vivace, le plus présent, le plus symptomatique, c'est en effet la question qui tourne autour des implantations roms. Mais c'est une question générale.
Considérant que la fin du virage de la RD 310 ne comporte aucune glissière de sécurité, considérant que si un conducteur perd le contrôle de son véhicule à la fin du virage, le véhicule, en l'absence de tout dispositif de sécurité, terminera donc sa trajectoire sur le campement. Considérant que le risque d'accident de circulation résulte également du stationnement de véhicules...
Il y a quelque chose qui s'ajoute là-dedans, et qui est un scénario, je crois, qui échappe à personne, c'est qu'il y a une forme du pouvoir qui échappe à la question de droite ou de gauche, qui est simplement la modification du pouvoir dans les sociétés occidentales, actuellement. Et cette modification, elle n'est pas par le retrait du pouvoir, mais par une augmentation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de place pour le pouvoir, de plus en plus d'exercice du pouvoir, et qu'il y a un pouvoir qui s'étend de plus en plus sur la vie individuelle et sur la vie collective. Dans le cadre de la même discussion, c'est-à-dire la question du pouvoir, c'est cette modification du pouvoir que j'appellerais la bienveillance.
Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir.
De bienveillance du pouvoir, c'est-à-dire donc plus de pouvoir. Et peut-être c'est ce couplage-là qui actuellement met dans un état de malaise profond, c'est-à-dire de plus en plus de bienveillance du pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir régalien, c'est-à-dire la possibilité intrinsèque à un pouvoir de faire le bien selon son propre jugement et non pas selon les codes de droit ou les codes généraux d'une société. On se trouve dans une situation où le pouvoir augmente sous la forme de la bienveillance. Et finalement, les fameuses 75 considérations, elles sont l'extraordinaire façon de raconter comment on fout dehors les gens avec bienveillance.
Considérant que les lieux présentent un caractère d'insalubrité dû notamment à l'absence d'eau potable, considérant que de telles conditions de vie pour les occupants ont un caractère indigne et manifestement dangereux, considérant qu'au regard de la localisation de ce campement, sont en conclusion identifiés des risques réels à l'égard des occupants du campement, notamment en matière d'accidents de circulation, en matière d'incendie, en matière de risque d'électrocution, constituant un péril manifeste pour les occupants du campement, considérant que cette situation compromet donc gravement la sécurité et la salubrité publique. Considérant que si durant la saison hivernale il n'a été procédé à aucune mesure pouvant conduire à un démantèlement du camp, il convient donc désormais d'y mettre fin sans délai dans l'intérêt des populations occupant ce campement illégal. Considérant que les conditions d'installation du campement imposent donc une action immédiate. Considérant qu'il convient donc de prendre les mesures de police afin de garantir la sécurité des personnes et donc de mettre en demeure les occupants des parcelles cadastrées AC43, 45 et AC9, de libérer les lieux et de rejoindre l'un des centres d'hébergement d'urgence ouverts par l'État. Considérant qu'au regard des caractéristiques des conditions d'installation au sein de ce campement, seul le recours aux mesures de police apparaît comme la solution permettant de répondre à cette situation d'urgence impérieuse.
Chaque fois que quelqu'un dit « la première liberté, c'est la sécurité », il a dit l'essentiel de la matière du pouvoir. Ce n'est pas un propos de droite, c'est exactement la même chose que fait la gauche, c'est le problème du pouvoir. Après, on peut très bien modifier, mettre en cause, déjouer, détruire cette colonne vertébrale qui est en train de se construire de la nouvelle figure du pouvoir dans les sociétés occidentales, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une question, pour l'instant, à mes yeux, d'orientation. Ça, c'est, visiblement, tout le monde est très content d'exercer le pouvoir de la consolation, de la protection, de la sécurité, et surtout d'avoir en face des gens qui jouent le jeu. Quel est le jeu qu'on joue avec ce pouvoir-là ? Celui de la plainte, de la récrimination, celui de la souffrance et celui de la protection. Je dirais qu'aujourd'hui, un peu violemment, mais pour que le débat monte un petit peu quand même et qu'on arrive à d'autres endroits, je pense que la protection des Roms fait partie intégralement de la consolidation de ce type de pouvoir. Que les gens qui pensent qu'il faut les protéger, qu'il faut faire quelque chose pour adoucir, etc., etc., sont des gens qui sont en train, objectivement, de considérer qu'il y a des êtres faibles, etc., et qu'il faut les aider, etc. Du coup, eux exercent un pouvoir. Chacun veut une peluche. Le Rom, c'est une peluche. Et quand c'est pas fini avec les peluches, on trouve des animaux à protéger. Alors, on se bat pour les... Vous voulez que je vous lise les droits des cétacés, par exemple ? Il a été... Donc, ça a été... Si vous voulez, je vous le lis. Allez, on rigole. Tu peux me passer mon sac ? C'est pas long, hein ? Mais enfin, c'est la déclaration d'Helsinki sur le droit des cétacés. Moi, j'aime bien ça. Et oui, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tout le monde veut protéger quelqu'un, parce que tout le monde veut avoir du pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui, c'est de sécuriser, de protéger, d'aimer, de cajoler, d'empêcher que ça souffre partout, etc. Mais à rien foutre pour qu'il y ait une réelle autonomie. C'est ça le problème de fond. C'est qu'il n'y a plus du tout d'autonomie dans ce cas-là. Ah, voilà, là, voilà, oh, c'est joli quand même. Je vais vous la lire.
À l'issue de la conférence réunissant des experts internationaux, des défenseurs de l'environnement et des philosophes, qui s'est tenue le 22 mai 2010 à l'université d'Helsinki, une déclaration des droits pour les cétacés a été rédigée. En voici le contenu. En accord avec le principe de l'égalité de traitement entre toutes les personnes, reconnaissant que la recherche scientifique nous donne un aperçu plus précis de la complexité de l'esprit, des sociétés et des cultures cétacées, notant que le développement progressif du droit international manifeste un sentiment croissant de volonté de reconnaissance des droits pour les cétacés, nous affirmons que tous les cétacés, comme les personnes, ont le droit à la vie, à la liberté, au bien-être. Nous estimons que, premièrement, tout individu cétacé a le droit à la vie. Deuxièmement, aucun cétacé ne devrait être gardé en captivité ou en servitude, être soumis à un traitement cruel ou être retiré de son milieu naturel. Troisièmement, tous les cétacés ont le droit à la liberté de circulation et de séjour au sein de leur environnement naturel. Quatrièmement, aucun cétacé n'est la propriété de quelque État, personne morale, groupe humain ou individu. Cinquièmement, les cétacés ont le droit à la protection de leur environnement naturel. Sixièmement, les cétacés ont le droit de ne pas être soumis à la perturbation de leur culture. Septièmement, les droits, les libertés et les normes énoncées dans la présente déclaration devraient être protégés en vertu du droit national et international. Huitièmement, les cétacés ont droit à un ordre international dans lequel ces droits, ces libertés et ces normes puissent être pleinement réalisés. Neuvièmement, aucun État, société, groupe humain ou individu ne devrait s'engager dans quelque activité qui porte atteinte à ces droits, libertés et normes. Dixièmement, rien dans la présente déclaration ne peut empêcher un État d'adopter des dispositions plus strictes pour la protection des droits de cétacés. Accepté le 22 mai 2010 à Helsinki, Finlande.
Article 1er. Ordonne aux occupants des parcelles cadastrées AC9, 43 et 45 de libérer de toute occupation les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent arrêté et de rejoindre l'un des centres d'hébergement d'urgence ouverts par l'État. Article 2. Précise qu'en l'absence de suite donnée par les occupants, il sera procédé à l'évacuation du campement, le cas échéant avec le concours de la force publique et que les occupants se verront orientés vers des lieux d'hébergement mis à leur disposition par la préfecture de l'Essonne. Article 3. Le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur général des services, le directeur de la police municipale et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 4. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à M. le préfet de l'Essonne, M. le commissaire central de la police nationale d'Evry, M. le directeur de la police municipale, M. le directeur du centre technique municipal, aux propriétaires des parcelles cadastrées AC9, 43 et 45. fait à Ris-Orangis le 29 mars 2013. Stéphane Raffali, maire, conseiller général. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, transmis en préfecture le 29 mars 2013, publié le 1er avril 2013.
Des vacances pour animaux en peluche. Cela se passe à Tokyo. Le guide est d'ailleurs lui-même en peluche. Derrière cette idée, Sonoe Azuma, voyagiste un peu spécial. Depuis 3 ans, elle a eu plus de 200 clients.
La plupart de mes clients envoient leurs peluches parce qu'ils trouvent le concept amusant. Certains ne peuvent pas eux-mêmes partir en vacances car ils sont hospitalisés ou handicapés, ou simplement trop occupés.
Un séjour organisé comprenant un hébergement de la peluche pendant plusieurs jours coûte entre 15 et 33 euros. Formule particulièrement appréciée des ours, un bain dans un onsen, source d'eau chaude du Japon. L'agence publie des photos sur les réseaux sociaux pour que les propriétaires puissent suivre les aventures de leur doudou en direct. Même la sortie au restaurant est incluse.
En novembre 2012, l'éloignement est un programme politique sans couleur partisane discernable, ciment d'une union sacrée non formulée comme telle. Sous une bannière, il est l'instrument permettant de raffermir les chairs d'un patriotisme sénile, projet de misère partant de désœuvrement social et économique. Sous une autre, son activation vaut rituel sacrificiel. Du rebut humain, on attend qu'il expose sa douleur et sa misère, si manifestement que l'on finisse par croire que le bon côté du monde est désirable malgré la crise, les emprunts, la copropriété délabrée et des bouchons de la nationale 7.
Le 22 décembre 2012, après 2 semaines de chantier ayant mobilisé retraités, étudiants, chercheurs en tout genre et architectes diplômés par le gouvernement, nous inaugurons au beau milieu du bidonville de la nationale 7 de Ris-Orangis l'ambassade du Pérou. Un bâtiment d'une 20aine de mètres carrés arborant sur ses flancs 4 mots inscrits en lettres capitales. Être, ici, vivre, maintenant.
Jean-Paul Curnier est actuellement en résidence d'écriture à l'espace Chiasma pour y développer une réflexion sur les rapports entre prédation et démocratie, entre la prise de possession et son partage, selon une forme qu'il veut différente de celle traditionnelle de l'essai. Dans ce cadre, il propose chaque mois une rencontre avec un invité de son choix, destiné à relancer la recherche dans une direction nouvelle. Cette résidence s'inscrit dans le programme de résidence d'écrivains conduit par le service livre du Conseil régional d'Île-de-France.
Les passages lus sont extraits du texte de Sébastien Thierry, intitulé « Une contribution à l'art de faire riposte, l'ambassade du Pérou à Ris-Orangis », paru en 2014 dans l'ouvrage collectif, considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir chez Post-Édition. L'arrêté numéro 2013-147 du 29 mars 2013 a été lu dans son intégralité par Yves-Noël Genoux pour l'association Le Pérou. Vous avez pu, par ailleurs, entendre « Musique pour crier » et « Musique pour danser » Barbatesti de l'album « Musique pour cordes » de Transylvanie, collection du CNRS et du Musée de l'Homme, « Le chant du monde » Harmonia Mundi. Ce programme a été produit par l'espace Chiasma. Réalisation Jean-Paul Curnier et Sébastien Tsegel. Remerciements à Alexandre Thieblin, Stéphanie et Julie Gauvin, ainsi qu'à Mathieu Esclassant.